BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour à tous, bienvenue à Nice pour une émission spéciale de BFM Climat en direct de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous sommes au Palais des Expositions de Nice, rebaptisé et transformé en baleine cette semaine pour l'UNOC. L'UNOC, c'est le plus grand événement climatique de l'année, 10 ans après la COP21 de Paris. Des dizaines de chefs d'État sont là, des centaines de chefs d'entreprise ont fait le déplacement parce que les enjeux économiques liés à l'eau et aux océans sont énormes. Ils sont partout et ils sont aussi largement méconnus et insoupçonnés. Et justement, pour vous aider à mieux comprendre ces enjeux et pour vous aider à protéger vos entreprises, on va parler de tout ça dans l'intérêt de vos entreprises, eh bien, j'accueille 3 dirigeants autour de la table pour planter le décor et avancer sur ces sujets. Bonjour Laurence Pérez.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice région Sud PACA de Suez aux France. À vos côtés, Frédéric Buzyn, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur action régionale PACA d'EDF. Donc on a le monsieur et madame Suez et EDF PACA. Donc on va bien comprendre les enjeux locaux grâce à vous. Et face à vous, Clémentine Adial, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de Malongo. Laurence Pérez, je commence avec vous, puisque Suez, évidemment, on voit tout de suite les liens avec, avec l'eau. Une question toute simple pour commencer ici à l'UNOC. Qu'est-ce que votre entreprise fait pour traitement des eaux, enfin, le métier eau, c'est évidemment consubstantiel de Suez, mais qu'est-ce que vous faites pour protéger la mer et les océans chez Suez?
Écoutez, deux métiers principaux chez Suez, c'est d'abord le grand cycle de l'eau et petit cycle de l'eau, et puis c'est également la collecte et le traitement des déchets. Donc aujourd'hui, on est présent à l'UNOC assez naturellement par la nature de nos métiers, puisque 80% des déchets qui se retrouvent dans les mers, donc dans les océans, viennent de la terre, et on est là pour préserver, collecter et recycler ces déchets.
D'accord. Est-ce que vous... Donc ça, évidemment, ce sont vos métiers au quotidien. En termes d'engagement, en termes d'action concrète pour aller plus loin, à l'occasion de l'UNOC, est-ce que Suez met des choses en avant?
Alors tout à fait, on a plein d'exemples en France et dans l'international. Aujourd'hui, on a la station d'épuration de Nice à Liotis, qui est nichée entre l'aéroport Nice-Côte d'Azur et la promenade des Anglais. Cette station, qui est une station ressource, puisqu'on est à la fois l'opérateur pour exploiter cette station, c'est-à-dire collecter et traiter les eaux usées avant le rejet en mer. Ouais. Et on est là aussi pour la reconstruire, puisque c'est un chantier qui vient de démarrer cette année, pour pouvoir préserver la mer Méditerranée, collecter les eaux, les traiter et surtout faire en sorte que ce soit une usine ressource. Donc notamment, un des enjeux phares de Nice à Liotis 2, c'est la réutilisation des eaux usées traitées une fois qu'elles sont passées par la station.
Oui, et alors ça, c'est un sujet très intéressant. C'est-à-dire qu'on le sait, en France, on est très en retard sur cette question du traitement des eaux usées. C'est un peu un sujet tabou. Est-ce que vous voyez les choses avancer? Parce qu'il y a des pays, on le sait, qui sont beaucoup plus en avance que nous par rapport à ça.
Alors, c'est vous qui le dites, mais la France est quand même en avance. Aujourd'hui, on a un gros pacte de stations d'épuration avec la directive européenne qui a été traduite en droit français. Et c'est d'ailleurs la nouvelle directive qui va aujourd'hui être à une deuxième vague de sa réglementation. Aujourd'hui, les parcs des stations d'épuration, notamment opérés par Suez, c'est un peu plus de 270 stations avec des tailles conséquentes qui vont nous permettre de faire un effet levier avec un potentiel vraiment majeur pour la réutilisation des eaux usées. Puisqu'aujourd'hui, en France, par rapport à d'autres pays européens, on est à peu près sur 1% de ces eaux qui sont réutilisées.
Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors qu'il y a des pays à 10-12%.
Et
voilà.
Vous avez raison, ouais. Puisque l'Italie ou l'Espagne, on est à autour de 8 et 14%. Mmh. Le plan eau du gouvernement donné un enjeu majeur, puisque ça sera 10%. C'est quasiment l'équivalent qui va être fait sur Nice. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur Aliotis 2, puisqu'on aura 5 millions de mètres cubes par an qui vont être réutilisés pour pouvoir les arrosages des espaces verts ou le nettoyage des voiries.
Et alors justement, vous le disiez, on est à Nice. Quels sont vos enjeux spécifiques chez Suez Eau, ici, dans ce territoire-là, Nice.
Alors,
j'allais dire PACA, mais même Nice. Ouais.
PACA, non, mais Nice, on peut faire les deux. C'est vraiment la réutilisation des eaux usées. Et le deuxième sujet, c'est la préservation de la ressource, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie dans les territoires s'il n'y a pas d'eau.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est vraiment l'enjeu majeur dont nous avons besoin, et c'est l'enjeu auquel répond le groupe Suez avec les collaborateurs de la région.
Bon, même question pour vous, Frédéric Buzyn. Donc, vous êtes le monsieur PACA, je le disais pour faire simple, d'EDF. En quoi, même si évidemment on connaît bien sur BFM Business les liens entre l'eau et les besoins en eau et la production d'énergie, mais en quoi les océans, la protection des océans, c'est stratégique pour vous?
Alors, la question que vous posez, c'est en quoi EDF peut être un acteur maritime?
Oui, et en quoi EDF a intérêt à protéger les mers et les océans, puisque c'est quand même ça le grand sujet de l'UNOC. c'est protéger la mer, les océans, alors, pour des raisons climatiques et aussi économiques.
Quelques chiffres, justement, pour éclairer le sujet. 90% du trafic maritime commercial passe, par les mers.
Ouais.
Ça représente 11 milliards de fret, c'est énorme. Et c'est surtout une activité qui génère...
11 milliards de bateaux ?
11 milliards de tonnes.
De tonnes,
ouais, d'accord. De matériel affrété par voie maritime chaque année. Et c'est surtout, effectivement, 3% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.
Ouais, c'est ça.
Auquel il faut rajouter 3% pour l'économie portuaire qui est adjacente, effectivement, au trafic maritime.
D'accord.
Donc, le poids CO2
est énorme. Ah, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que les 3%, c'est, entre guillemets, que les bateaux.
Que les bateaux.
En plus, si on rajoute les ports, on
Il faut faire x2, effectivement, avec l'activité portuaire.
Ouais.
Donc c'est énorme.
Ah oui.
Alors effectivement.
Oui, parce que l'avion, pardon, c'est quoi, 2,5%
L'avion à l'échelle mondiale, c'est 3%. C'est comme le trafic maritime.
Ouais.
Sauf que le trafic maritime, si on lui ajoute effectivement l'économie portuaire, c'est deux fois plus.
Ouais.
Donc c'est beaucoup de CO2. Au passage, les trois plus grands ports français aujourd'hui, Dunkerque, Le Havre et Marseille, Marseille-Fos, c'est 10% des émissions de CO2 à l'échelle nationale. Donc c'est une activité effectivement qu'il nous faut décarboner collectivement.
Bah, et qui fait partie des 50 sites. Vous savez, il y a les 50 sites que le gouvernement veut décarboner. Ça en fait partie, ces trois ports ?
Oui, bien sûr, ça en fait partie. Et si vous prenez les trois plus gros, ceux que je viens de citer, ça représente 10% des émissions de CO2 au plan
national. Incroyable.
Et donc chez EDF, on a une conviction, c'est que c'est la conviction des trois facteurs indissociables. Lutter contre le réchauffement climatique, protéger les océans et préserver la biodiversité. Pour nous, c'est trois facteurs qui sont liés. Et John Kerry disait ça très bien. Le climat se dégrade. L'océan se dégrade, le climat se dégrade. Et dans tous les cas, la biodiversité est perdante.
Et juste, pareil, même question, parce que donc là, on aborde les sujets macro-climatiques, entre guillemets, spécifiquement ici en PACA, puisque, encore une fois, votre territoire, c'est PACA. Quels sont vos enjeux chez EDF ?
Alors, c'est très simple.
Donc, il y a les ports, bien sûr, mais au-delà.
La famille maritime a évalué les besoins en électricité pour décarboner l'ensemble de ses usages, que ce soit ceux liés au trafic maritime ou ceux liés à l'économie portuaire. Imaginez que sur l'ensemble du territoire national, et bien sûr, en grande partie également pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 90 TWh. Alors, l'unité vous dira sans doute pas grand-chose.
Ouais.
Ça représente l'équivalent annuel de la consommation en électricité d'un pays comme la Belgique.
Ah oui.
Et ça représente l'équivalent de 14 réacteurs nucléaires, donc 25% de la production nationale française électronucléaire.
D'accord.
Donc c'est des quantités d'électricité qui sont énormes. Donc notre premier enjeu, c'est de produire davantage.
Oui, on en est très loin.
Produire davantage une électricité bas carbone. On a cette chance en France, effectivement, qu'elle soit ainsi et qu'elle puisse être un excellent levier, effectivement, pour accélérer la décarbonation de cette économie. Un deuxième enjeu, il est simplement lié à l'innovation. Il faut sans doute être modeste et volontaire, mais il y a un champ d'innovation qui est énorme dans le champ de cette économie maritime. Beaucoup de solutions sont à inventer et bien sûr EDF se positionne sur ce champ.
Bon, on va revenir à tous ces points-là. Je voulais quand même juste voir aussi comment ça se passait du côté de chez Malongo. Et vous, Clémentine Alzial. Alors d'ailleurs, moi je ne le savais pas, Malongo c'est une entreprise niçoise. Votre usine de torréfaction, elle est à un quart d'heure de Nice, sur les hauteurs de Nice.
Exactement. Enfin, donc
là,
nous,
c'est le premier
truc
que j'ai appris.
Alors déjà, on est français, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc on est français et en plus, on est niçois, puisqu'on est à Carrosse, à 20 minutes d'ici, on torréfie
donc,
l'ensemble des cafés Malongo.
Ouais. Bon. Et alors, là aussi, quels sont les... On se doute bien qu'évidemment, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cacao. Enfin bref, vous ne pouvez pas faire votre métier. Mais un peu plus en détail, quels sont vos enjeux économiques liés aux océans ?
Alors, d'abord, vous avez raison. La première chose, il ne faut pas l'oublier, c'est que le café, c'est une matière première agricole.
Ouais.
Donc, en effet, vous avez raison. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc, nous, on est complètement dépendants. C'est-à-dire que notre matière première, notre ressource principale, elle est complètement dépendante du cycle de l'eau. Mmh. Donc, ça, c'est le premier point.
Ouais.
Et après, le lien terre et mer, je pense qu'on vient juste d'en parler aussi. C'est-à-dire que l'océan est un vrai régulateur pour le climat. Mmh. Mais à l'inverse, 80% de la pollution de l'océan provient de la pollution terrestre.
Ouais.
Donc, comment est-ce que nous, on agit en tant qu'entreprise pour éviter ces pollutions-là ? Il y a un sujet évident, le plastique, la réduction du plastique, par exemple. Nous, on a des doses en papier depuis plus de 30 ans, puisque la réduction du plastique est un vrai enjeu, puisque tous les plastiques vont dans les océans à la fin.
Ouais. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise que je reçois dans BFM Climat qui veulent bien faire, qui veulent arrêter le plastique, ou en tout cas le réduire significativement, mais qui n'ont pas les alternatives. Vous, le fait que ce soit du papier, ça nuit pas aux propriétés physiques du café. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, toute la chaîne est préservée, il n'y a pas de sujet par rapport à ça.
La difficulté, c'est toujours pareil, c'est d'être capable de faire le choix entre préserver le plus longtemps possible les arômes, qui est le rôle de l'emballage, hein, parce que la problématique du plastique, c'est l'emballage, et d'avoir donc des arômes les mieux préservés et en même temps de ne pas avoir de plastique. Moi, je pense qu'il va y avoir à un moment une révolution à faire sur la supply chain mondiale, puisqu'en fait, on s'est mis à préserver le plus longtemps possible pour avoir des durées de vie extrêmement longues sur les produits. Pourquoi ne pas consommer des produits plus près, plus frais, et qui du coup nécessitent moins d'emballage?
Oui, ou qu'on n'a pas forcément besoin de conserver si longtemps.
Exactement, c'est une dérive un petit peu du système agroalimentaire.
En tout cas, vous arrivez à faire sans plastique.
On arrive à faire des doses en papier, tout à fait.
Ouais. Et alors, là aussi, question que je posais à Suez, qu'est-ce que Malongo, vous faites pour les océans? Parce que vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que les océans nous protègent et nous, on détruit les océans. C'est-à-dire que c'est la double peine pour eux, quoi. Ils font des choses pour nous et nous, à l'inverse, on fait des choses contre eux. Qu'est-ce que vous, Malongo, vous prenez, par exemple, comme engagement ici à l'UNOC?
Donc nous, il y a un des points déjà qui est essentiel, qui est la préservation de la biodiversité terrestre, puisqu'elle a ensuite un impact aussi sur la biodiversité marine. Nous, on produit tout en agroforesterie. Donc ça, c'est un des éléments très importants. Ensuite, la baisse de notre empreinte CO2, notamment en relocalisant toute la production des machines à café qui étaient avant fabriquées en Chine, qui maintenant, depuis 2022, sont 100% fabriquées en France, en Vendée. Okay. Donc ça, c'est une baisse d'empreinte carbone qui, du coup, a un impact...
On ne pouvait pas le faire à Nice. On pouvait pas le faire à Nice. Enfin, la Vendée, c'est très bien aussi.
Mais la Vendée était technologiquement la meilleure terre pour le faire. Et du coup, ça nous permet d'avoir des composants et des matières premières qui viennent d'un secteur autour de l'usine. Donc, c'est beaucoup plus intelligent que de le faire à Nice. Donc, effet, il faut faire des choix à certains moments. Et après, il y a une autre initiative qui, elle, est beaucoup plus liée au monde du café en général, qui commence à se développer, qui est le transport à la voile. Et vous parliez tout à l'heure, et c'est intéressant, des transports maritime, parce que tout le monde pense que le fait d'importer des matières premières, ça crée beaucoup de CO2. Or, comme vous le disiez, c'est que 3%. Par contre, les activités portuaires sont énormes aussi. Et là, c'est là où la voile devient intéressante. Parce qu'en fait, au-delà de baisser juste la partie du transport maritime, c'est l'agilité avec laquelle les bateaux peuvent aller dans des ports. On pourrait tout à fait imaginer demain venir débarquer du café dans le port de Nice, parce que les infrastructures à la voile ne demandent pas du tout les mêmes infrastructures portuaires
que les gros
ports containers.
Mais pardon, alors après je vous donne la parole évidemment, mais vous transportez pas tout à la voile.
C'est vraiment une initiative.
C'est prototypaire, ce genre de choses, quoi.
Ah ben, je suis désolée, mais déjà il n'y a pas assez de bateaux, donc appel aux investisseurs et appel à tous les gens qui sont qui ont envie de sauver l'océan.
Vous pourriez faire une logistique qui repose sur le transport à la voile?
Oui.
Ah oui?
Ah oui, 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 je pense, oui. C'est plus rapide, c'est plus agile et ça permettrait surtout d'enlever aussi toute la partie, ce que vous avez parlé des activités portuaires, pardon, il y a toute la partie terrestre. Le fait de transporter entre Le Havre, entre Angers et ici, ça a aussi un impact qui est fort.
Oui, bien
donc
sûr.
Si on arrivait à avoir des voies maritimes qui étaient changées et qui permettaient de venir au plus près des gens qui fabriquent, mais ça, c'est à toute la filière de se bouger.
Oui, bien sûr, sur ce point-là.
Et on a des coalitions à faire sur ce sujet.
Ouais, c'est marrant parce que dans BFM Climat, j'avais reçu une entreprise que vous connaissez bien, c'est Valrhona, puisque vous en étiez ancienne patronne, et eux aussi, justement, veulent développer le transport à la voile pour acheminer la matière première.
Mais ils ont raison, cacao, café, même combat.
Bon, Laurence Pérez, je reviens à vous et au territoire en lequel on est ici, en PACA. La question spontanément qui me vient à l'esprit aussi, c'est celle du stress hydrique. Est-ce que c'est une région qui va de plus en plus vers des risques de pénurie d'eau ou pas?
Alors, pénurie d'eau, ça dépend les saisons, puisqu'aujourd'hui, dans le dérèglement climatique, on voit qu'on a de l'eau soit qui arrive en grande abondance, soit inversement qui connaît des stress hydriques. Moi, je suis profondément convaincue que depuis l'été 2022, qui nous a marqué avec la sécheresse, finalement, et le plan eau qui en a déduit, mais y compris au niveau de la région ou du département des Alpes-Maritimes, on a besoin absolument de travailler sur la ressource. Donc, d'abord, la préserver, c'est la première solution qui est proposée par Suez. On doit faire en sorte d'économiser l'eau.
Voilà.
Donc,
c'est deux actions. Quand vous dites préserver, c'est la sobriété.
Alors, il y a sobriété, mais il y a aussi les actions qu'on peut mener quand on est opérateur de l'eau comme nous sur la patrimoine des canalisations enterrées. Et puis, il y a également tout le travail des consommateurs, puisqu'aujourd'hui, les usagers, les citoyens, on a différents types d'usages. Dans tous les cas, on arrive à leur donner des nouvelles technologies, des compteurs connectés, des compteurs intelligents qui permettent de connaître en temps réel leur consommation.
Okay.
On a donc des alertes qui sont reçues par ces usagers. Aujourd'hui, c'est un peu plus sur la région. 350 000 compteurs intelligents qui sont dans les ménages, qui permettent de devenir acteurs réducteur de sa consommation et du coup de faire de la baisse.
Ça s'appelle comment, c'est Linky sur l'électricité.
Alors, vous avez OnConnect, qui est la technologie éprouvée et déployée par Suez. Ouais. Des compteurs intelligents, c'est de la télérelève. Ça permet d'avoir en temps réel les consommations. Et pour répondre à votre question, les usagers deviennent acteurs de leur consommation puisqu'ils sont alertés en cas de fuite. Okay. On a l'exemple l'année dernière sur la métropole Aix-Marseille. On a un peu plus de 6 usagers sur 10 qui a eu une alerte pour une fuite et qui a fait en sorte de réparer et du coup de réduire sa consommation après compteur sur son ménage.
Ok. Et alors, et juste pour revenir à la question de départ, est-ce que quand même quand on voit les projections climatiques à moyen long terme, est-ce qu'on est dans une région où le risque de pénurie est avéré ou pas? Parce qu'il y a par exemple, voilà, on le sait en Auvergne-Rhône-Alpes, du côté de l'Isère, la Drôme, tout ça, il y a un vrai stress hydrique. Est-ce que là, en PACA, on peut se projeter vers ça ou pas?
Alors, aujourd'hui, en PACA, non, il y a des solutions qui sont trouvées. Puis, il y a les grandes collectivités qui œuvrent aujourd'hui pour la préservation de la ressource. Ce qu'il faut arriver, c'est faire des économies d'eau, je vous l'ai dit, par rapport à tout à l'heure. Et également, recharger, quand c'est possible, les nappes souterraines. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui sur hier les palmiers dans le Var. Ouais. Puisqu'on vient utiliser quand l'eau est abondante l'hiver, pour pouvoir l'utiliser au moment où on a le pic de consommation et surtout l'attractivité touristique qui caractérise notre région. Et grâce à cette nouvelle technologie et ces solutions, on arrive finalement à pouvoir répondre à la demande en eau qui est multipliée par 5, voire par 6 sur certains territoires.
D'accord.
Pour pouvoir finalement gagner en attractivité, gagner en préservation pour les touristes qui viennent toutes les ans en vacances chez nous.
Et chez Suez, comment est-ce que vous voyez l'avenir vis-à-vis de la ressource en eau? Est-ce que pour vous, le point le plus important à l'avenir, ça va être justement la préservation de l'eau ou le traitement et la réutilisation des eaux usées? Qu'est-ce qui va être le plus déterminant à l'avenir?
Les deux. J'ai tendance à dire les deux. C'est d'abord économiser l'eau, je vous l'ai dit, avec les compteurs connectés et puis finalement les usagers qui viennent nous aider à ça. C'est pouvoir faire des économies d'eau ou la réutiliser. J'ai commencé par ça avec la station d'épuration Nice. Je vais vous parler aussi de la station de Cannes-Mandelieu Aquaviva qui vient préserver la ressource. Et ensuite, c'est vraiment trouver d'autres alternatives ou faire en sorte que cette ressource, elle soit abondante et qu'on puisse l'utiliser pendant l'été. Et donc, il y a des solutions qui existent sur la région sud, PACA, et c'est le cas aujourd'hui dans les contrats opérés par Suez.
Alors, Frédéric Buzyn, je voulais revenir au sujet des ports. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure qui font un peu froid dans le dos, entre guillemets, les 90 TWh, les 14 centrales nucléaires qui aujourd'hui ne sont pas là, enfin en tout cas dédiées à ça. Est-ce que du coup, vous dites que c'est un projet un peu irréaliste?
Non, il n'est pas irréaliste dans le sens où on parle d'espace-temps malgré tout qui sont des horizons de moyen terme. 90 TWh, c'est pas demain matin, c'est dans les prochaines années.
C'est pour quoi, 2030, 2040?
Alors, 90 TWh, c'est à l'horizon 2050, puisque ça renvoie effectivement à l'ambition du monde maritime aujourd'hui d'avoir sa propre neutralité carbone à cet horizon-là.
Ouais.
Pour autant, c'est pas pour autant que cet horizon-là...
Et pardon, c'est l'objectif des ports aussi. C'est pas que des bateaux, pas que des flottes.
C'est un objectif national. Aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone de l'État français, c'est de décarboner tous les ports de l'économie, dont l'économie portuaire. Donc effectivement, c'est un sous-ensemble de ce chemin à parcourir qui va nécessiter beaucoup d'innovation, beaucoup de partenariats, et en particulier, s'agissant des ports, d'être capable de raccorder tous les navires à quai le plus vite possible, d'être capable de produire des carburants de synthèse pour venir remplacer le fuel lourd, qui est un carburant dont on ne parle pas, mais qui est effectivement extrêmement impactant pour l'environnement.
Bien sûr.
Et puis aussi, et pour terminer, d'avoir la capacité à décarboner l'activité industrielle portuaire qu'on trouve effectivement dans les grands ports français, avec beaucoup d'innovation à la clé également.
Sur ces questions de biocarburant, vous pensez qu'ils iront en priorité? Parce qu'on le sait, malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous pensez que ça ira en priorité pour le transport maritime? Parce que l'aérien en veut, l'automobile en veut. Il y a plein de projets qui se montent, qui comptent sur ces biocarburants, mais encore une fois, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Il est vrai d'observer qu'aujourd'hui, la filière du monde de l'aérien a un cran d'avance sur l'activité maritime. Pour autant, on sait faire du méthanol, pour prendre un exemple précis, d'une molécule de synthèse fabriquée à partir de l'hydrogène et de la capture de carbone. Bon, il est vrai aussi qu'on est sur des filières d'avenir qui aujourd'hui n'existent pas au plan industriel, devront trouver leur propre modèle d'affaires pour permettre effectivement aux armateurs d'avoir la capacité à décarboner leur activité.
Soit les carburants de synthèse, puisque c'est les deux qui sont concernés. Et juste une dernière question pour cette production d'énergie. Est-ce qu'on peut avoir massivement des éoliennes en PACA? Il y a aussi le nucléaire. Emmanuel Macron avait parlé éventuellement d'un projet d'une centrale à Fos-sur-Mer. Est-ce que toutes ces choses-là sont crédibles?
Réalisable et crédible. L'équation est assez simple. Si on veut décarboner notre économie à l'horizon 2050, il faut moins consommer d'énergie, toute forme d'énergie confondue. Il faut commencer par ça, 40% de réduction à l'horizon 2050.
Intéressant. 40% de l'effort, c'est ça?
C'est la première formule. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas la peine de parler du reste. Ensuite, il faut effectivement éradiquer les énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. Pour ça, il y a deux leviers. La chaleur renouvelable, pour démarrer.
Ouais.
On n'en parle pas suffisamment. L'exemple, effectivement, de Suez est excellent pour l'agglomération de Nice.
Ouais.
Et puis, un deuxième exemple, c'est effectivement plus d'électricité. Et là, on sait aujourd'hui qu'il nous est demandé de prolonger la durée de vie du parc nucléaire existant.
Ouais.
Bien évidemment, de maintenir le parc hydroélectrique, il est très important en service. Mmh. D'ailleurs, au passage, un petit clin d'œil pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que la chaîne hydroélectrique de Durance-Verdon a été construite dans les années 60, aujourd'hui, on a une capacité, en fait, à véhiculer et à maîtriser des énormes volumes d'eau qui servent à alimenter, qui servent de château d'eau, en fait, pour l'ensemble de la région. Donc ça, c'est une caractéristique qui explique pourquoi la région n'est pas en stress hydrique et ne le sera pas dans les prochaines années.
Pour
terminer, les programmes de demain, c'est effectivement un programme d'EPR 2, dit 2, donc trois paires d'EPR qui sont lancées aujourd'hui, et une ambition forte en matière d'éolien offshore.
On a la chance
effectivement ici sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir mis en service la semaine dernière Provence Grand Large, une innovation mondiale, une première mondiale qui a consisté effectivement à mettre en service trois éoliennes offshore flottantes au large de Fos-sur-Mer avec un dispositif d'ancrage tendu par des ancres à succion, ce qui n'avait jamais été fait, et on a cette chance d'avoir ça chez nous.
Ok. Bon, mais après, il va falloir passer à l'échelle, parce que 3, enfin, c'est très bien, hein, surtout si c'est innovant, mais il va falloir beaucoup plus. Je reviens vers vous, Laurence Pérez, parce que donc on parlait du risque de stress hydrique, il y a aussi les risques toujours lié à l'eau, lié à la montée des eaux, lié au retrait du trait de côte, lié aux inondations. On a vu ce qui s'est passé au Lavandou il y a 2-3 semaines. Est-ce que vous considérez, alors stress hydrique, on a compris, donc tant mieux, visiblement, on en est protégé, mais est-ce que vous considérez malgré tout qu'on est sur un territoire à risque à cause des eaux, à cause des mers ?
Alors oui, le risque, il est là, mais il est aujourd'hui traité par les collectivités ou par des grands syndicats qui sont dans la prévention des inondations. On l'a vu, vous l'avez dit, dans des événements tragiques qui ont lieu il y a quelques temps au Lavandou notamment. Ouais. Aujourd'hui, il y a des solutions pour pouvoir lutter finalement, en tout cas prendre des dispositions pour cette remontée des eaux. Donc on prend des dispositions dans les ouvrages, il y a des infrastructures, il y a des investissements qui sont faits par les collectivités, et Suez accompagne les collectivités par rapport à ça. Ou sinon, on vient aussi travailler sur la biodiversité, puisqu'on vient finalement recréer des massifs dits artificiels au départ, dans lesquels il y a une nouvelle population qui vient s'installer, et ça permet finalement d'accompagner cette montée des eaux qui de toute façon est annoncée et viendra à un moment donné toucher nos traits de côte.
Il paraît que les mangroves, c'est formidable pour lutter contre la...
C'est un exemple, notamment sur le territoire outre-mer, hein, pour lequel Suez opère, avec des résultats qui sont aujourd'hui concrets, pragmatiques et éprouvés.
Et alors vous, Clémentine Alzial, en tant que dirigeante d'entreprise, justement, ancrée ici, est-ce que vous vous dites « je suis sur un territoire à risque » quand vous projetez votre entreprise dans les 10-20 ans, vous dites « là, j'ai quand même un gros sujet lié à l'eau ».
Ce qui est sûr,
montée des eaux, etc., inondations...
Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des risques liés à l'eau. C'est ce qu'on a évoqué, que ce soit par la situation de l'entreprise, par la disponibilité de la matière première, par le transport. On a tous des risques liés à l'eau. Et la deuxième chose qui est sûre, c'est que l'inaction n'est pas une solution. Donc à partir de là, prenons toutes les initiatives. Et sur notre territoire aussi, on se doit de participer aux différentes initiatives. Et c'est pour ça qu'on est présent ici. Quel autre café que Malongo pouvait être servi pendant ce soir sommet, ça fait partie de notre envie d'agir pour le territoire aussi, même si jamais la plus grande partie de notre action est en pays producteur.
Oui, bien sûr. Mais donc, le pour revenir à cette question des inondations, de la montée des eaux, vous vous dites pas, on est sur un territoire à risque à moyen terme. Vous projetez la pérennité de votre activité économique ici. Parce qu'il y a des entreprises qui se posent la question, hein, que ce soit l'eau ou d'autres aléas climatiques, qui se disent, en fait, là, ce territoire, il n'est pas pérenne, il faut qu'on aille s'installer ailleurs.
Non, tout à fait, on se pose...
Chez vous, non ?
Si, bien sûr.
Oui, vous posez la question, mais la réponse, c'est pas non.
La réponse, elle est que, à mon avis, pour l'instant, et ce que j'écoute, et j'écoute les différents experts, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment loin d'être mon domaine d'expertise.
Ouais, bien sûr.
J'écoute les différents experts, et de ce qu'on en dit, normalement, on ne devrait pas être sous les eaux d'ici 20-30 ans. Et surtout... J'ai un espoir plus grand, peut-être un peu fou, c'est qu'on inverse la tendance.
Oui, bien sûr. Et alors, justement, là, vous me tendez une perche, vous pourriez faire de la télé aussi. Qu'est-ce que vous attendez de l'UNOC, justement ? Parce que le but du jeu de cette conférence, c'est quand même qu'on avance, qu'on prenne des engagements. On le sait, ce type de rassemblement, c'est à la fois très enthousiasmant et en même temps parfois aussi assez décevant, le décalage entre les intentions et les résultats derrière. Qu'est-ce que vous attendez pour que les choses avancent ici?
Alors moi, j'attends des actions très concrètes. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne veux pas des paroles et beaucoup de blabla. J'attends des actions très concrètes. J'en ai noté deux, de par les différentes conférences que j'ai pu écouter. C'est la préservation d'environ 30% de la surface des océans. Donc, inscrire dans le dur, entre tous les différents pays qui sont là, cette préservation. Et ça, ça me paraît possible. Et il y en a une autre qui est très importante à mon avis, c'est la pêche au chalutier, qui fait des dégâts absolument mortifères. J'ai eu la chance d'assister à la projection du film de David Attenborough à Monaco et j'ai été absolument pétrifiée par les images que j'y ai vues. Et j'espère que mes enfants ne les verront plus.
Eh ben, c'est très bien résumé. Mais effectivement, quand on voit ces images, on se dit, mais pas une seconde, ça n'existerait sur Terre. Comme c'est dans l'eau, personne ne le voit et donc ça passe. Mais sur Terre, ça n'existerait pas une seconde. Pareil, même question pour vous, Frédéric Buzyn, chez EDF. Pour vous, cette UNOC sera réussie s'il se passe quoi? Il faut avancer sur quoi?
Très clairement, si on réussit à mieux partager la connaissance, à élargir le cercle des parties prenantes concernées et intéressées par l'univers maritime, ça passe par toutes les générations, évidemment en particulier les plus jeunes, aussi les décideurs. À ce titre, je souhaiterais saluer effectivement la Convention des entreprises pour le climat, qui est aujourd'hui centrée sur les océans et qui associe une bonne centaine de chefs d'entreprise, dont je pense ici autour de la table quelques-uns et quelques-unes.
Vous en faites partie, vous aussi.
Pour collectivement travailler
et réfléchir ensemble. Et Laurence Pérez, visiblement, vous n'avez pas pu.
Voilà, donc je pense que la
l'année prochaine,
connaissance,
la promo 2026.
Je pense que la question de la connaissance, de la sensibilisation, de la compréhension et de l'engagement, c'est véritablement auprès du plus grand public et finalement de toutes les parties prenantes, c'est l'enjeu le plus important.
Ouais, effectivement, l'action, le préalable à tout, c'est la sensibilisation et la connaissance, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qu'on fait mal parce qu'on ne sait pas derrière quelles conséquences ça peut avoir. Le mot de la fin pour vous, Laurence Pérez, qu'est-ce que vous attendez de cette UNOC? Pour vous, ça aura marché, ça aura été utile, s'il se passe quoi?
Si on arrive à sensibiliser plus largement, et je rejoins ce que dit Frédéric Buzyn, les parties prenantes, réconcilier peut-être le monde scientifique, le monde politique et le monde de l'entreprise dont nous faisons partie, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'on a des solutions éprouvées, il y a des solutions qui existent, charge à nous finalement d'être aussi des catalyseurs de tout ça, pour qu'on puisse montrer ce qui se passe, notamment sur la région sud ou les Alpes-Maritimes, et faire en sorte, avec tous les experts qu'on a, nous, dans le groupe Suez, pour pouvoir apporter finalement notre action de manière concrète, ces actions qui viendront in fine porter de toute façon la préservation des océans.
Bon, et ben on termine sur ce mot d'espoir. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. C'est un plaisir de vous avoir dans BFM Climat aujourd'hui.
Invitation.
Frédéric Buzyn chez EDF, Laurence Pérez chez Suez Eau France PACA et Clémentine Adial, donc directrice générale de Malongo. Parce que Malongo, donc, ça se passe à Nice, vous l'avez compris. Allez, on marque une pause et on se retrouve pour la suite de BFM Climat ici à Nice, justement pour l'UNOC. A tout de suite.
BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour à tous, de retour à Nice, ici pour cette émission spéciale de BFM Climat en direct de l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous sommes désormais avec trois hommes des mers, trois hommes qui prennent la mer ou qui ont les pieds dans l'eau pour relever nos défis d'avenir, nous déplacer, nous nourrir ou encore essayer de nous débarrasser du plastique. Bonjour Victorien Russard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le président fondateur d'Energy Observer. C'est un bateau hors norme et pas que, vous allez nous expliquer, mais c'est notamment ce bateau assez extraordinaire, capable de faire le tour du monde uniquement avec des énergies renouvelables. On va parler de ça dans un instant, évidemment. Face à vous, Simon Bernard, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous êtes le président cofondateur, c'est marqué sur votre t-shirt pour ceux qui nous regardent à la télévision, de Plastique Odyssée. Plastique Odyssée, c'est un bateau et une expédition à travers le monde pour faire reculer le plastique. Et à vos côtés, Benjamin Dorjan, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du Paysan Marin, une association qui veut promouvoir l'agriculture, l'aquaculture. Lapsus, on parle souvent d'agriculture régénérative dans BFM Climat. Aujourd'hui, on est à Nice, à l'UNOC, on va parler d'aquaculture régénérative dans un instant avec vous. Victorien Russard, je commence avec vous. Vous êtes déjà venu dans BFM Climat, c'était il y a quelques mois à Meaux, au moment de grandes rencontres autour de l'hydrogène. Vous revenez nous voir aujourd'hui parce que vous lancez une nouvelle expédition, vous allez nous en parler. Mais avant ça, déjà, rappelez-nous ce qu'est Energy Observer pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ouais,
c'est un bateau zéro CO2, zéro particules fines, donc basé sur mix énergétique. Et surtout, on a testé une chaîne de production d'hydrogène complète, donc production d'hydrogène à partir de l'électrolyse de la mer. Et on a notamment travaillé sur des modules technologiques qui derrière ont été certifiés pour rendre accessible ce que l'on a développé à bord. On vient de terminer un tour du monde de 7 ans, plus de 100 escales, 50 pays, 13 films documentaires, voilà, travail de sensibilisation autour de cette expédition.
Et donc le point de départ, tout ça, c'est de faire la démonstration qu'on peut faire du maritime décarboné.
Oui, oui. Alors après, l'hydrogène a ses limites. Donc,
oui, mais c'était pas que l'hydrogène chez vous. Il y avait de l'hydrogène, il y avait du solaire, il y avait un peu toutes les briques, non?
Oui, mais en tout cas pour le donc on faisait en effet de l'autoconsommation.
Ouais, voilà.
Économie d'énergie avec la propulsion vélique.
Ouais.
On a été les premiers à tester le système qui est maintenant installé sur la canopée, là, le bateau affrété par la Ariane Group.
Tout à fait, ouais.
Et le solaire nous permettait de faire énormément.
C'est intéressant ça. Donc la techno qui est sur ce bateau, elle vient de vous?
Oui, oui. Ouais. Enfin, elle vient de notre architecte VPP.
Oui, voilà. De ce que vous avez, oui, voilà. Vous avez expérimenté, quoi.
Hero Ocean Wix. Mais oui, ouais. 6 ans d'expérimentation avec cette technologie.
Bah,
on est vraiment un navire laboratoire.
Ouais.
On est un projet qu'on aime expérimenter des technologies pionnières.
Ouais. Et alors, donc justement, navire laboratoire, prototype. Qu'est-ce que vous avez après comme plan d'industrialisation? Parce que c'est toujours l'intérêt d'un... Enfin, c'est ça le but à l'infini d'un prototype.
En effet, ce n'était pas du tout ma vocation au début.
Bah mais vous êtes un marin, vous?
Ouais, si, bah, je suis officier de marine marchande, voilà. En effet, comme Simon et coureur au large. Mais dans ce genre de projet, on a beaucoup de partenaires, d'ailleurs, que je remercie, des partenaires qui nous ont accompagnés sur l'expédition en tant que sponsor.
Mais alors, pardon, juste là, pour ceux qui nous regardent à la télévision, on voit des images absolument fabuleuses de vos bateaux, hein, justement, des différentes expéditions que vous avez pu faire.
Voilà.
Je vous rends la parole.
Et derrière cela, comme je vous l'ai dit, c'était pas ma vocation, mais on a créé EODEV, Energy Observer Développement.
Ouais.
On a levé tout de même 100 millions d'euros.
Ouais.
Et derrière, on a...
Pour industrialiser les technos testés, voilà, sur votre bateau.
Voilà. Alors, pour des applications terrestres, à travers, ouais, des groupes électro-hydrogènes, le fameux GEH2, qui est une alternative au générateur diesel, lorsqu'on n'a pas d'alimentation électrique. Et derrière, des modules maritimes à base de piles à combustible, certifiés par le Bureau Veritas, par une société de classification,
ouais,
et permettant à des bateaux, comme le navire de pêche de formation Alba, qui est présent à Nice et
ici,
à Monaco,
ouais,
de naviguer avec ces technologies zéro émission.
Bon, on va revenir dans un instant sur la nouvelle expédition que vous avez annoncée ici à l'UNOC. Là, vous tendez la perche à Simon Bernard chez Plastic Odyssée. Vous vous êtes peut-être déjà croisé en mer, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, donc avec ce bateau-là, expliquez-nous votre aventure, votre odyssée autour du plastique.
Alors effectivement, on est un peu les petits frères d'Energy Observer. On a bien suivi tout ça. C'est ce qui nous a inspiré aussi pour cette expédition. Alors nous, c'est un navire de recherche qui travaille sur la pollution plastique, en mettant en avant des solutions concrètes. Et donc l'avant du bateau est dédié à la réduction du plastique, à toutes les alternatives pour se passer du plastique. On,
d'accord,
essaie de vivre avec 20 personnes, d'expérimenter la vie sans plastique. Et l'arrière du bateau est...
Trouver des alternatives, c'est ça, au plastique.
On trouve dans chaque pays, on va aller dénicher des solutions pour éviter d'utiliser du plastique. Et ça, on va l'expérimenter directement à bord du navire, qui est aussi un navire laboratoire et qui permet de diffuser, de faire connaître ces solutions. Et toute l'arrière du bateau est dédiée au recyclage. Donc, qu'est-ce qu'on fait des déchets qui sont déjà,
d'accord,
produits? Une fois qu'on a évité...
Ah, c'est marrant, il y a vraiment les deux jambes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à l'avant la vie sans plastique et à l'arrière la vie qui recycle le plastique.
Exactement. On passe une porte, c'est marqué plus de plastique dans cette zone. Et là, on entre dans la zone où... Alors, malheureusement, il y en a encore un peu. On essaye de réduire, d'éliminer complètement,
ah ben,
les emballages,
un peu, vous
les
êtes
plastiques,
gentil,
de notre quotidien.
Ouais.
Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de montrer qu'il faut réduire, montrer toutes les solutions pour éviter le plastique. Et puis avec tout ce qu'on a qui reste et qui a été produit depuis les années 50, il faut en faire quelque chose, il faut réduire l'impact que ça a. C'est un héritage qu'on a. Et donc on travaille sur des solutions de recyclage pour les pays du Sud.
Ouais, et alors je rappelle ce chiffre, la population mondiale, enfin la croissance a doublé au cours des dernières décennies et la production de plastique a augmenté de 40%. Ouais, on a fait x40, donc effectivement, on a un usage complètement déraisonné du plastique. Mais alors, est-ce que justement, parce que là, l'expédition, elle a commencé il y a 2 ans et demi, si je ne dis pas de bêtises, vous avez trouvé des solutions de recyclage, IDM, que vous pouvez diffuser?
Alors, sur
ou
le
ça reste encore au stade du laboratoire?
Sur le recyclage, c'est déjà quand même bien généralisé. Nous, on se concentre sur un type particulier de recyclage. On ne devrait même pas forcément appeler ça du recyclage, mais on retransforme directement en produit fini. Donc, on n'essaye pas de faire une boucle et de réintroduire, ouais, de la matière, puisque ça pose des problématiques, on le voit, de toxicité et autres. Donc on essaie vraiment de stocker ces déchets plastiques,
ouais,
pour en faire des produits finis qui vont,
okay,
durer dans le temps,
ouais,
maximum.
Comme quoi?
Et donc ça peut être du mobilier par exemple, des,
ah oui,
poubelles pour les rues.
Okay.
On fait des poubelles pour les rues de Dakar,
d'accord,
du mobilier, des bancs,
ouais,
pour les écoles.
Okay.
Il manque 500 000 tables-bancs à Dakar, au Sénégal. Donc on fabrique des tables-bancs pour les écoles.
Okay.
On fabrique du mobilier urbain, des matériaux de construction,
ouais,
qui permettent...
Et tout ça, vous le concevez sur votre bateau?
C'est ça. Alors ça, c'est expérimenté à bord du bateau,
ouais,
laboratoire,
ouais, bah,
à l'image de ce que se fait Energy Observer. Et derrière, ouais, on a une start-up industrielle qui développe des micro-usines de recyclage,
okay,
qui les implante sur les territoires. ouais. en Afrique et en Asie.
Intéressant, bah, c'est marrant, vous avez un petit peu le même modèle quelque part. Alors sur vos bateaux, bah, peut-être qu'au loin, au large, vous avez aperçu Benjamin Dangean, qui lui a les pieds dans l'eau pour le coup, il n'est pas sur les bateaux, mais lui, il veut donc faire de l'aquaculture régénérative. Expliquez-nous, Benjamin, en quoi ça consiste le paysan marin ?
Alors l'aquaculture régénérative, c'est assez simple. Finalement, c'est casser la barrière entre l'aquaculture et la restauration écologique. Donc quand on va dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire faire d'un aquaculteur un acteur de la gestion de son milieu, ce qu'il est déjà, mais pour lequel il n'est pas reconnu. Mmh. Et dans le deuxième moyen, c'est l'amener à diversifier ses revenus. Ce que vous, ce à quoi vous sortez, c'est des exploitations qui sont résilientes, qui vous amènent un trait de côte qui est protégé, qui deviennent la source finalement de toute la matière bleue qui est devenue stratégique. Je me permets une petite digression parce que je suis sûr qu'au moment où j'ai commencé à parler, où j'ai dit le mot aquaculture, je suis sûr que tout le monde avait en tête des grosses cages à poissons blindées de saumon. Ça, typiquement, c'est l'opposé de ce qu'est l'aquaculture déjà en France et une aquaculture traditionnelle. En France, on a 70% de notre aquaculture, c'est des huîtres et des moules. Mmh. Donc c'est déjà ce qu'on va appeler le bas niveau trophique. C'est des espèces qui recréent déjà nos côtes. Maintenant, comment on fait pour que ces exploitants, ils deviennent aussi des producteurs d'algues, ils deviennent aussi des gestionnaires de zones protégées, ils deviennent finalement une nouvelle forme de... d'environnementaliste qu'il y ait une opposition entre ces deux mondes.
Ouais, et alors, comment est-ce que vous faites pour les embarquer là-dedans, justement ? Est-ce que tout le monde est réceptif ? Et puis, comment on fait ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à un point de bascule. On est un peu dans un cas comme dans l'agriculture. Là, vous êtes à un changement de génération.
Ouais.
Une ancienne garde de génération, elle est extrêmement en connaissance de son milieu. Elle est aussi très bloquée dans ses traites, ses dettes, son modèle économique et aussi ses autorisations administratives. Mmh. Donc là où nous, on saute sur l'opportunité, c'est que le moment de céder sa ferme, c'est aussi le moment de l'enregistrer différemment et de pouvoir donner la chance à un nouvel aquaculteur, à un jeune, de s'installer d'une autre manière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la fois les accompagner avec toute une communauté, que ce soit de producteurs déjà installés jusqu'à des chercheurs, et mettre en place des espaces tests aquacoles sur toutes les régions françaises, afin qu'ils puissent tester et prouver leur activité. Parce qu'on peut en être convaincu, mais tant que vous n'avez pas prouvé que vous sortez un CA pour convaincre une banque,
évidemment,
finalement, au moment où vous voulez vous installer, le problème est un peu plus
compliqué. Bien sûr. Alors, vous parlez des agriculteurs et de la question du passage de génération. Donc, visiblement, c'est la même chose chez les aquaculteurs. Est-ce qu'il y a le même problème de pénurie, de main-d'œuvre, de recrutement ? Est-ce que là aussi, on voit un gros sujet vis-à-vis de ça ?
Alors, complètement, et c'est pour ça qu'on parle souvent de ce terme, que ce terme d'aquaculture, il est assez sinistré. Du coup, il est devenu de moins en moins désirable. Vous allez dans l'agriculture, ça fait 20 ans qu'on retravaille aussi à donner une autre image de l'agriculteur qui amène à cette transition. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore démarré et auquel on s'attelle beaucoup de changer l'image de la profession. Et notamment, c'est là où on a lancé des campagnes de communication, notamment sur les poissons ou les produits qui sont peu consommés. Parce qu'on se dit, ça facilite le travail d'un aquaculteur. Ce que ça amène surtout, c'est que ça diminue les pressions sur le milieu. Mmh. Si vous commencez à manger des espèces invasives, des espèces sous-inconnues, qu'est-ce que vous faites ? Vous diminuez la pression sur vos quotas. Vous diminuez la centralisation de votre filière.
Mmh. Et... Enfin, on voit bien que l'agriculture a du mal parce que ce sont des métiers difficiles, des métiers qui payent mal. C'est la même chose chez vous ?
Alors, c'est la même chose chez nous et c'est pour ça qu'on parle de diversification des revenus. C'est que l'aquaculture telle qu'on la pratique, c'est une aquaculture qui est sans aliments, sans intrants, sans déchets et sans eau douce. Je me permets de le préciser parce que sans eau douce, c'est quand même un enjeu du siècle qui vient.
Ouais, bah oui.
Quand vous faites tout ça, ça veut dire que vous avez des aquaculteurs qui fournissent déjà des services environnementaux qui sont assez phénoménaux, mais pour lesquels ils ne sont pas rémunérés.
Ouais,
et d'où tout le travail d'arriver soit par des crédits environnementaux, soit par d'autres contrats directs, à ce que se diversifier, ce soit non seulement une forme de résilience pour leur exploitation, mais aussi des revenus additionnels.
Ouais. Alors, Victorien Ressard, je reviens à vous. Votre expédition, puisque donc là, vous reprenez la mer.
Oui.
Nouvelle expédition que vous avez annoncée ici à l'UNOC. Vous repartez 8 ans.
9 ans.
9 ans, pardon. Oui, 2025-2033, ça fait 9 ans, c'est vrai.
Oui, mais à travers une structuration différente d'avant.
Avant, okay. Parlez-nous de cette nouvelle expédition.
Oui, avant, en fait, on a fait un tour du monde, on n'est pas revenu en France. Là, chaque année, on partira de France, on ira vers un territoire et on reviendra.
Okay.
Le territoire qui sera le plus en lien avec la mission de l'année. Donc, on a en tout 7 missions. Il y a 2 missions qui durent 2 ans.
Ouais.
Et ces différentes missions sont des leviers pour atteindre cette neutralité carbone dont on entend beaucoup parler.
Ouais.
Est-ce que cette neutralité carbone est possible ? Est-ce qu'elle est presque impossible ? Donc on va s'entourer d'experts, d'ingénieurs, de scientifiques qu'on embarquera à bord et donc 9 ans de nouvelle aventure.
Et alors, dans le, donc cette mission, hein, vous avez dit, et dans le détail, qu'est-ce que vous allez voir dans ces missions-là ? Parce que, donc si je comprends bien, c'est la neutralité carbone un peu sous tous ses angles, quoi.
Exactement. Donc la première mission, là, sur un an et demi, on sera sur la capture carbone, aller explorer les solutions naturelles, industrielles, okay. Toutes les formes de stockage, de valorisation du CO2.
Ensuite, bah, typiquement, il faut s'inspirer de la mer. Là, j'ai appris ça en préparant. Voilà, la mer, elle capte 30% de nos émissions.
C'est encore plus, c'est un énorme puits de carbone.
Ouais, c'est de loin le premier puits carbone de la planète.
Et ensuite, on sera sur la mobilité. Ensuite, on sera sur l'intelligence artificielle.
Ah oui.
Ensuite, on sera sur le nucléaire, le renouvelable et le fossile. D'accord. Ensuite, les ressources, matériaux stratégiques, métaux critiques. Ensuite, on sera sur l'eau et on terminera par un tour de l'Arctique.
Ah oui.
Et la dernière mission, ça s'appellera Résilience et adaptation au changement climatique.
Ok.
Et tout cela avec un nouveau navire laboratoire que j'ai présenté il y a quelques jours.
Oui, alors justement, bah, on va pouvoir le voir pour ceux qui nous regardent à la télévision. Ce bateau-là, qu'est-ce qu'il est différent par rapport au précédent ?
Alors,
c'est le EO 3, c'est ça ?
Énergie Observer 3, oui, parce voilà. qu'entre les deux.
Et avant, c'était le EO 1.
EO 1, celui avec lequel on va partir encore 2 ans. Mais entre
ah, il reprend la mer lui aussi.
Oui, pendant okay. qu'on va construire ce nouveau bateau EO3. D'accord. Juste petite question qu'on peut se poser, pourquoi EO2 ? On a travaillé depuis 2 ans sur un projet de cargo de 160 mètres de long avec une propulsion électrique et 5 mégawatts de piles à combustible semblables à ce que l'on avait à bord d'Energy Observer. C'est comme si on parallélisait une centaine de piles à combustible comme la puissance de notre navire actuel.
D'accord.
Et avec 42 tonnes d'hydrogène liquide, c'est un bateau qui sera décarboné à hauteur de 98%. On a été récemment lauréat du Fonds de l'innovation européen avec une aide européenne importante. Et donc voilà, mais c'est un autre projet sur le sujet expédition.
Ouais. Non, mais on va en parler après parce que c'est passionnant là. Vous arrivez, vous avez un prototype de cargo.
Oui.
90% des 98%
carbone. Oui, c'est de l'hydrogène bas carbone derrière. Et c'est l'adoption de piles à combustible. Donc, on n'a pas de moteur à combustion dans ce navire.
Un cargo qui a les mêmes dimensions que ceux qu'on voit, enfin ceux qui aujourd'hui prennent la mer.
C'est un feeder, c'est un bateau qui fait du cabotage maritime. Donc, c'est un cargo moyen, on va dire.
Ouais, ok. Et quand est-ce qu'il pourrait voir le jour, ce bateau ?
Pardon ?
Quand est-ce qu'il pourrait voir le jour, ce bateau, en vrai ?
Il faut absolument, vis-à-vis du programme de l'Europe, que le bateau soit opérationnel pour 2030.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Voilà. Et donc,
on revient à EO3.
Je reviens au 3. En fait, dans le sujet maritime est complexe. Il y a plusieurs moyens de stockage, plusieurs solutions technologiques. Il y a les batteries, il y a l'hydrogène gazeux, il y a l'hydrogène liquide, il y a les biocarburants, il y a le GNL, le bio-GNL, il y a les e-carburants, carburants d'origine synthèse. Électrique, avec du méthanol, du e-méthanol, de l'e-ammoniac, etc. Nous, on va tester à bord de ce bateau le NH3, l'ammoniac.
Okay.
L'ammoniac est un porteur d'hydrogène.
Ouais.
Et à bord de ce bateau, on va avoir un petit réacteur cracker. On va convertir cet ammoniac en hydrogène. L'hydrogène, on va le purifier et on va transformer cet hydrogène en électricité à travers une pile à combustible semblable à notre premier navire et une pile à combustible haute température.
D'accord.
Donc voilà. Et l'objectif, ça sera de passer sur un navire professionnel transport de passagers et d'apporter tout le retour d'expérience nécessaire pour avancer sur ces différentes solutions technologiques bas carbone.
Mais alors, justement, là, vous me tendez une perche. C'est-à-dire que ce bateau-là, que ce soit celui-là ou le précédent, le EO1, que j'ai eu la chance de voir pour de vrai, c'est vraiment des bijoux de technologie. Est-ce que vous avez bon espoir que ce genre de bateau, ça puisse s'industrialiser et que demain, le transport maritime au sens large, que ce soit de passagers ou de marchandises, il puisse être décarboné ? Parce que c'est un des gros sujets, évidemment, ici à l'UNOC, hein. Décarboner le transport maritime, 3% des émissions.
Nous, en fait, ce qu'on aime, c'est aller chercher
des solutions. Est-ce que vous croyez à ça ?
Oui,
un transport maritime décarboné.
Oui, de toute façon, ça fait partie des objectifs de l'Organisation Maritime Internationale. Il faut qu'un jour qu'on atteigne la neutralité carbone. Ouais. Donc,
vous qui êtes aux avant-postes, vous dites que c'est faisable. C'est pas juste qui vivez votre rêve.
Ça va être complexe. Ce qui est important, c'est de développer des navires pilotes en avance de phase technologique, de montrer que ça marche, de créer des écosystèmes portuaires autour pour avitailler ces navires. Nous, c'est ce qu'on fait avec Energy Observer et on va toujours s'orienter vers des technologies peu matures, complexes, pour les rendre accessibles. Et en général, les technologies qui sont complexes permettent de fortement décarboner. C'est notre mission.
Ouais. Votre mission à vous, donc Simon Bernard, c'est le plastique, évidemment. Vous les avez bien expliqués sur votre bateau, l'avant et l'arrière. Pour vous, l'avenir, il va être où, justement ? Plutôt dans la réduction du plastique ou la nouvelle vie du plastique, si on est réaliste ?
Malheureusement, il faut vraiment faire les deux en même temps. Il faut même aller restaurer des écosystèmes qui sont pollués et que personne ne va nettoyer, comme les aires marines protégées, les îles de l'UNESCO. Donc il y a un travail à faire
partout. Vous le faites ça d'ailleurs, vous, dans vos expéditions.
On a commencé, ouais. On a commencé sur une île dans le Pacifique, ouais. Qui s'appelle Henderson, que personne n'avait réussi à nettoyer. Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas une solution miracle qui va tout changer. Donc il faut agir à la source, il faut réduire la production de plastique. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire en priorité, d'au moins 50%.
D'accord.
On espère que le traité sur le plastique permettra de faire quelque chose, mais c'est compliqué, on le voit. Donc il faut aussi avoir des solutions concrètes. Parce que quand on parle de réduction de plastique, il faut montrer des solutions. Sinon, ouais. Les gens ne savent pas quoi faire. Si on leur dit il faut arrêter d'utiliser une bouteille plastique, par quoi je la remplace, le gobelet, enfin, tout le plastique qu'on a au quotidien. Donc c'est ça qu'on essaye de faire à notre niveau. On a un système à bord du navire qui permet de potabiliser l'eau, qui nous a évité 25 000 bouteilles d'eau en 2 ans. D'accord. Et on a bu de l'eau du monde entier. On a bu de l'eau d'Inde, de Madagascar, de pays. Personne n'irait boire de l'eau de ces pays-là.
Ouais.
Ça représente une tonne de plastique quasiment qu'on a évité juste sur les bouteilles d'eau. Donc il y a des solutions comme ça qui peuvent être répliquées partout.
Ouais.
Et donc ça, c'est la priorité. Puis le plastique qui est là, il y a quand même 5 milliards de tonnes qui n'a pas été géré. Donc il faut en faire quelque chose. Peut-être qu'un jour, on arrivera à en faire de l'hydrogène. Et en attendant, il faut arriver à le stocker, à limiter l'impact.
Ouais. Alors, vous qui prenez la mer depuis 2 ans et demi, qui voyez des choses quand même, et en plus, il y a eu des documentaires liés à votre expédition, on voit quand même des choses vraiment éprouvantes, enfin, je trouve, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Est-ce que par moments, ça vous décourage, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous dites, en fait, là, le mal est fait quelque part, enfin, la tâche est trop dure.
Bah, bizarrement, non. C'est une question qu'on nous pose souvent, mais bizarrement, non, parce qu'on rencontre au quotidien des gens qui font des choses incroyables,
ouais.
Qui agissent et qui nous et ça fait 2 ans et demi qu'on parcourt le monde, on en apprend tous les jours, on découvre des initiatives, que ce soit sur la réduction, le recyclage, et donc on est en permanence baigné dans un boosté dans un monde de faiseurs,
ouais, c'est ça.
Et d'optimistes quelque part.
Ouais, ouais.
C'est ça qu'il faut pour changer.
Ah bah, ouais,
on a essayé de parler des problèmes, ça marche pas. C'est pas en parlant des problèmes qu'on arrive à faire changer, à donner la motivation aux gens de changer.
Ouais, bien sûr.
Donc on a choisi l'autre.
Ouais, non, mais vous avez bien raison. Et alors, Benjamin Dorjan, vous, bien évidemment, votre sujet, c'est la question de la pêche. Ici à l'UNOC, on va parler pêche illégale, surpêche. Là aussi, quelle solution vous voyez, vous projetez sur ces sujets-là?
Alors sur la pêche, même si c'est pas notre domaine principal, on considère qu'il y a un diagnostic qui est similaire. Il est lié à la dégradation des écosystèmes et au stock disponible. Mais en fait, je rejoins Simon quand il dit que quand vous allez voir les producteurs, quand vous allez voir les faiseurs, finalement, ils sont déjà tous engagés dans la possibilité ou toutes les possibilités pour changer. Vous allez avoir des façades maritimes vers Boulogne dans lesquelles les pêcheurs se demandent déjà est-ce qu'ils vont devenir algoculteurs. Leur question n'est pas juste de défendre mordicus la pêche, elle est comment on défend notre ressource.
Ouais.
Et c'est très important de prendre ça en compte quand on parle d'une industrie ou d'une filière nationale, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a déjà 80% des poissons que vous mangez qui ne viennent pas des côtes françaises. Donc, et c'est là où c'est important un endroit comme l'UNOC, c'est que l'avenir de la gestion de nos stocks de poissons ou du stock maritime global, il se joue en partie dans nos actions sur comment ils se répliquent, comment ils passent à l'échelle.
Ouais.
Et nous, on est un peu cette question du prototypage pour le faire arriver au-dessus. Mais il se joue fondamentalement dans des lieux de coopération internationale. Essentiellement parce que l'échelle d'impact de l'industrie de cette exploitation du milieu marin, elle se joue de façon globale. Et c'est là où pour nous, c'est un changement philosophique. C'est de passer d'une mer qu'on exploite à une mer en fait qu'on entretient.
Ouais.
Une mer qu'on entretient, ouais, dans laquelle on récolte et qu'on régénère. Ouais, ouais. Et je pense que par rapport à ce que vous souleviez sur est-ce qu'on a toujours de l'espoir dessus ? Nous, on ressent qu'il y a vraiment un changement de mentalité là-dessus. Et ouais, qu'il y a encore 15-20 ans, la question de se dire, on a la capacité de régénérer d'un écosystème et de travailler en positif, elle n'était pas dans les débats.
Ouais.
Et pour nous, ça, c'est quelque chose
de vraiment... Changer de mentalité, y compris sur le fait de pêcher tout court, parce qu'on le sait, on pêche trop. On mange trop de poissons, voilà, il y a un enjeu par rapport à ça. Les pêcheurs de demain, ils sont prêts à aller vers ça ? Alors, faire de la décroissance, comme on dit ?
Alors, faire de la décroissance, faire de la diversification. Comme je vous le soulevais, il y a la question de faire de l'algue, mais il y a aussi de pêcher. La responsabilité vient aussi aux consommateurs. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un poisson oublié. Vous allez en Méditerranée, tout le monde veut manger des sardines. Combien d'entre vous mangent du Spratz ? C'est-à-dire que la plupart, vous ne le connaissez même pas. Il a à peu près la même taille, à peu près le même goût. Il n'est même pas soumis à quota tellement il est bien géré. Personne ne le consomme. Et un pêcheur, il ne va pas aller le prélever s'il ne sait pas que vous allez l'acheter.
Oui, bah bien sûr, il faut un marché. Ouais.
Donc c'est là où il y a la partie du changement de comportement du producteur, mais il y a aussi la partie du changement culturel.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut diffuser l'information pour ça.
Pour rebondir, j'ai une petite anecdote, parce qu'en Égypte, on a rencontré une association de pêcheurs qui travaillent sur le plastique et qui proposait aux pêcheurs locaux de commencer à pêcher des bouteilles plastiques. Et on s'est rendu compte qu'ils gagnaient plus d'argent en pêchant les bouteilles plastiques qu'en pêchant le poisson. Donc ils sont devenus des pêcheurs de bouteilles plastiques sur le Nil.
Okay.
Incroyable. Et donc,
effectivement, ouais.
Peut-être qu'une partie des pêcheurs pourront aussi diversifier avec la pêche, parce que dans les filets, on en trouve malheureusement beaucoup.
Ouais. C'est assez dingue cet exemple, effectivement. Il nous reste un petit mot, moins de 5 minutes. Victorien Russard, un petit peu pour conclure cette émission. Vous trois, donc, qui êtes soit sur la mer, soit les pieds dans l'eau, on voit bien qu'il y a énormément de menaces qui pèsent sur les océans, la montée des eaux, l'acidification, le chalutage, enfin, il y a plein de sujets, le plastique. Est-ce que vous restez, vous qui parcourez la mer au quotidien quasiment, est-ce que vous restez optimiste et confiant, ou est-ce que vous dites, là, en fait, on a déjà fait trop de dégâts et la responsabilité, c'est de s'adapter, en fait, à des gros problèmes qui sont devant nous? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il est encore le temps d'inverser la vapeur, ou est-ce qu'en fait il faut se préparer à changer de monde?
Alors moi je suis plutôt spécialisé sur les sujets énergétiques. Ouais. Sur les sujets énergétiques, je veux juste qu'on accélère en fait. Je pense qu'on est capable de le faire. Il faut accélérer.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'accélère pas alors? C'est une question de moyens, hein, tout bêtement.
En fait, on essaye toujours d'opposer les technologies. Ça, j'ai remarqué ça depuis 7 ans.
Ouais.
Ceux qui ont des solutions batteries les opposent aux solutions hydrogène. Ceux qui ont des solutions de biocarburant les opposent aux solutions hydrogène, etc. On va vivre dans un monde de mixité énergétique avec des ressources limitées. Donc il faut partager. Mais il faut surtout accélérer. J'ai eu la chance au Blue Economic Finance Forum à Monaco avant-hier.
Le week-end dernier,
De voir la diffusion du film Océan, que j'ai trouvé absolument incroyable. Et on parlait d'air marine protégée. Donc je crois qu'il n'y en a que 3% dans le monde actuellement. Et l'objectif pour que ça fonctionne vraiment, c'est qu'il y en ait 30%.
Ouais.
Et le sujet des coraux, par exemple, je pensais qu'une fois qu'un banc de corail subissait une forte hausse de température et blanchissait, qu'il n'y avait plus de retour, enfin
qui était mort,
que ça allait mettre énormément de temps. Et j'ai pu voir que si on protège la faune et la flore sous-marine à travers ces aires marines protégées, que des espèces de poissons peuvent revenir en fait prélever les petites algues vertes qu'il faut enlever de ces coraux, et qui permettrait à ces coraux de revivre. Donc ça, et ce que j'ai vu aussi, c'est par rapport à ces aires marines protégées, en fait, vous protégez un petit espace, mais qui se multiplie à des milliers de kilomètres.
Je me permets de
choses qu'on ne soupçonne pas.
Parce que c'est ça qui est très important. Est-ce qu'on a besoin de s'adapter? Oui, c'est quelque chose d'inévitable. Est-ce que ça nous permet de ne pas changer? Non. La question de la régénération ou de cette adaptabilité vient que le vivant, lui, il a intrinsèquement ça comme une propriété. Donc pour nous, dans la question de l'adaptabilité de la société, il y a une forme de reconnexion de nos productions au vivant. Donc ça va, nous, c'est facile de dire ça parce qu'on travaille avec les producteurs. Mais en fait, c'est aussi aller au-delà ou en dehors des matériaux hégémoniques. Et quand votre société, elle utilise toujours le même matériau, ses supply chains, elles ne sont pas flexibles. Et qu'est-ce qui limite le changement ? Sans parler de systèmes ou de grosses entreprises, que je sois une TPE ou une PME, quand j'ai démarré l'investissement dans mon appareil de production industrielle, j'ai un petit peu un besoin d'arriver à le payer et à le rentabiliser.
Ouais.
Donc il y a des moments de seuil, il y a des moments de transition qu'il faut saisir. Et pour moi, c'est ça qui rend difficile la chose. En tant qu'acteur économique, vous voulez aller au bout de ce que vous avez déjà lancé. Il n'y a pas un moment d'arrêt, un moment de départ. En tant que décideur politique, c'est un gros pari d'aller dans une voie que personne ne connaît.
Oui, bien sûr, une toute nouvelle voie. Il nous reste 30 secondes. Simon Bernard, le mot de la fin pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de l'UNOC? Pour vous, ça aura servi à quelque chose, s'il se passe quoi?
Alors moi, à titre personnel, ouais. Plastique Odyssée, on n'est pas beaucoup sur les négociations politiques, donc on est derrière tous ces acteurs qui font du plaidoyer et qui vont faire en sorte que ces négociations avancent. Je crois aussi que ce qui est important en parallèle de ça, c'est toutes ces rencontres. L'UNOC, j'ai eu la chance d'y être il y a 4 ans. C'est un des seuls moments où tout le monde se retrouve.
Ouais.
Et où on peut faire avancer les projets, trouver des partenaires, tisser des liens avec les expéditions, les porteurs de projets. Ça, c'est la force des événements comme ça.
Ok, et c'est un peu la force de BFM Climat aussi. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup à tous les trois, Victorien et Russard d'Energy Observer. Ben, bonne route avec votre EO3 et vos nouvelles expéditions jusqu'en 2033. Merci beaucoup Simon Bernard chez Plastique Odyssée et Benjamin Dorgeor. Merci beaucoup chez Paysans Marins. C'est la fin de BFM Climat. Merci, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission, cette nouvelle édition ici à l'UNOC, à Nice. On se retrouve très vite à Paris pour une nouvelle émission. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.